Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapitre 3. Le but divin de la loi. Celui qui comprend vraiment la bonté de Dieu court directement vers lui quand il manque le coche. Malheureusement, on a tendance à fuir loin de Dieu lorsque les problèmes surgissent, surtout si on ne vit pas pieusement. Quelle est notre réaction dès que notre conscience nous a convaincus qu'on a péché? On évite Dieu parce qu'on se sent coupable et condamné. On sait qu'on a enfreint la loi divine. En général, on ne veut pas être confronté à Dieu, craignant le rejet ou un châtiment terrible. Le chrétien a peur de s'approcher de Dieu. Par peur d'être exposé, il met de côté l'étude de la Bible, néglige son temps de prière, évite d'aller à l'église et de rencontrer le peuple de Dieu. Avez-vous une idée de ce que je dis? Connaissez-vous quelqu'un qui ne vient plus à l'église à cause du péché? Peut-être suis-je même en train de vous décrire. Quand on a péché, on ne peut pas forcément définir verbalement ce qui s'est passé. Mais dans le cœur s'installe la peur de s'approcher de Dieu. On craint que le péché ne soit mis à nu, que Dieu ne rejette ou n'attribue plus aucune valeur à notre vie. L'aspect de la punition est aussi à prendre en compte. Si la plupart des chrétiens nés de nouveau sont convaincus que Dieu n'envoie pas en enfer pour quelques péchés, en revanche, ils croient qu'à cause de ces péchés, Dieu cesse de communier avec eux, de les protéger ou de pourvoir à leurs besoins. Ils présument que Dieu les ménagera s'ils mordent la poussière et passent par une grande humiliation. Une telle conception éloigne de Dieu. Mais au fait, d'où vient-elle? Non seulement l'Ancien Testament ne représentait pas entièrement Dieu, mais encore, il était inférieur au Nouveau. Tout le livre des Hébreux l'étaye. Les quelques écritures suivantes illustrent ce point. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hébreux 8, versets 6 à 7. En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Hébreux 8, verset 13. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 7, verset 22. L'ancienne alliance ne pouvait rien rendre parfait. Aussi Dieu intervint-il avec quelque chose de mieux. Une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. La nouvelle alliance glorifie Dieu beaucoup plus que l'ancienne. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 11. Les Écritures expliquent que l'Ancien Testament engendrait la mort et la condamnation. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 56. D'après ce passage, la loi de l'Ancien Testament donnait de la puissance au péché. La vérité qui se dégage est celle-ci. La loi de l'Ancien Testament transmise par Moïse donna au péché la puissance de nous détruire. Je suppose qu'une telle affirmation est susceptible de bouleverser votre théologie. En fait, elle vous fait peut-être frémir. Pourtant, si nous voulons harmoniser la loi de l'Ancien Testament avec la grâce, l'amour et le pardon du Nouveau Testament, nous devons saisir cette vérité. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Romains 7, versets 7 à 10. Savez-vous qu'à un moment de votre vie, le péché était mort? Puis, vous avez acquis la connaissance du bien et du mal et la loi a pris tout son sens. Avant cette connaissance, le péché était déjà présent en vous, mais il ne vous contrôlait pas ou ne vous dominait pas. Il était mort. Une fois que vous avez été confronté à la loi et que vous avez vu le niveau de la perfection et de la sainteté de Dieu, vous avez compris à quel point vous étiez pécheur. Par exemple, la concupiscence est une convoitise ou un désir incontrôlé. Savez-vous que c'est la loi de l'Ancien Testament qui a éveillé en vous cette convoitise ou ce désir incontrôlé? En entendant le commandement « Tu ne convoiteras pas », vous avez réalisé que vous étiez un maniaque de la convoitise. La loi a mis le doigt sur votre péché, l'a éveillé et vous a condamné. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, verset 19. Vous est-il arrivé de vous sentir coupable? Savez-vous quelle est l'origine de cette culpabilité? De la loi qui régit l'Ancien Testament. La loi culpabilise. Selon 2 Corinthiens 3, verset 9 et Romains 3, verset 19, elle condamne. La condamnation ne doit toutefois pas être confondue avec la conviction du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la puissance de conviction du Saint-Esprit. Il est en nous et nous fait immédiatement savoir dans notre conscience si ce qu'on a envisagé de faire ou qu'on a fait est péché ou hors de la volonté de Dieu. La conviction nous attire à Dieu et nous conduit dans ses voies, tandis que la condamnation nous éloigne de l'intimité d'avec Dieu et nous donne l'impression de ne pouvoir rien faire de bien, de ne pouvoir que pécher. Beaucoup de croyants admettent que Satan est l'auteur de la condamnation et que la loi est son instrument préféré. Nous blâmons souvent le diable de nous condamner. Mais il faut admettre que ce sont aussi les pensées inspirées par la religion qui s'en chargent. Nous devons nous débarrasser des pensées qui ne reposent que sur des écritures de l'Ancien Testament. Lorsque j'étais adolescent, j'étais hanté par ce cauchemar. J'allais en enfer pour avoir fumé une cigarette. Voilà un pur exemple de la loi qui condamne. Tue et envoie en enfer. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. La Bible dit que la loi a pour but de révéler le péché, pas la connaissance de Jésus, de Dieu, du pardon ou de quelque doctrine que le Seigneur Jésus enseigne si bien. La loi nous pousse à avoir les yeux sur nous-mêmes, sur notre péché et notre indignité. C'est ce que m'apprit l'éducation religieuse reçue dans mon enfance. Nous devions alors rédiger la liste de nos péchés. Le moniteur distribuait une feuille de papier sur laquelle il fallait inscrire chaque péché commis. Je dus réclamer une autre feuille. Ma façon de vivre était peut-être meilleure que celle des autres, mais j'étais obsédée par mes péchés, au lieu de me concentrer sur Jésus. En général, les chrétiens présument que si vous prenez conscience de votre état pécheur, vous vous dégoûterez tant que vous vous tournerez vers Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. En rédigeant la liste de mes péchés, j'étais si dégoûtée de moi-même que je ne pensais plus qu'à moi. Mes manquements me préoccupaient tant que je n'avais plus de temps pour Dieu. La plupart des religieux pensent ainsi à tort. Le problème ne vient pas tant de la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, et ils devraient l'avoir, mais plutôt de l'image négative qu'ils ont d'eux-mêmes. Totalement égocentriques et dominés par leur « moi », ils continuent à penser qu'il est impossible de vivre pieusement pour Dieu. Mes moniteurs de l'école du dimanche enseignaient que plus je me sous-estimais, plus j'étais brisée et plus Dieu était en mesure de m'utiliser. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. La Bible dit dans Philémon 6 « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » C'est en connaissant ce que Jésus a fait en vous, en expérimentant l'amour de Dieu et en ayant un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a fait envers vous que vous serez efficace. Voilà ce que nous montre le Nouveau Testament. Voilà la façon de faire du Nouveau Testament. La loi de l'Ancien Testament nous a rendus conscients de nous-mêmes. Elle nous a amenés à concentrer toute notre attention sur nous-mêmes et sur notre péché. La conscience chargée de culpabilité, nous vivions dans la condamnation. Le régime de la mort nous rendait totalement inutilisables, tant spirituellement qu'émotionnellement. Vous vous demandez, quel rapport y a-t-il entre nous et l'ancienne alliance? Je n'ai plus à offrir de sacrifice de sang. Je n'ai plus à sacrifier des boucs ou des agneaux. Je ne suis pas sous l'ancienne alliance, certes. Mais je vous assure qu'à un degré ou à un autre, votre théologie, votre façon de penser ou vos attitudes sont probablement encore imprégnées par l'ancienne alliance. Vous ne faites peut-être pas de sacrifice d'animaux, mais pour expier votre péché ou votre culpabilité, vous vous offrez peut-être vous-même en sacrifice, par le biais de vos œuvres ou par les châtiments que vous vous infligez. La mentalité religieuse de la loi vous empêche de faire ce que vous devriez faire, de marcher dans l'intimité avec Dieu. Quand vous péchez, la loi vous incite à vous concentrer sur votre péché et vous empêche d'entrer dans le Saint des Saints en appelant Dieu, Abba, Papa, Père, qui pourtant est le seul moyen de se libérer du péché. La loi, ne mettant devant nos yeux que la colère, le jugement et la punition de Dieu sur notre péché, nous ne pouvons vivre dans cette intimité. En général, quand notre péché, notre indignité et notre culpabilité sont exposés, nous nous éloignons de Dieu au lieu de nous en rapprocher. Une autre précision, tout ce qui se trouve entre la Genèse et Malachie ne fait pas uniquement référence à la loi. Le sujet de la foi y est aussi beaucoup abordé, mais parce que la loi y est prédominante, il faut sonder les Écritures pour découvrir la foi. D'ailleurs, la Bible dit « De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi » et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Galates 3, versets 9 à 12. Je suis content que ce soit Paul et non pas moi qui l'ai dit. Si j'avais annoncé à une foule de religieux que la loi ne procédait pas de la foi, ça aurait été le tollé général. Ajoutez-y Romains 14, verset 23 qui dit que « ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché » et vous pouvez déduire que le croyant du Nouveau Testament qui essaye de plaire à Dieu en vivant sous la loi de l'Ancien Testament n'agit pas par la foi. Il est en fait dans le péché. Savez-vous que le croyant du Nouveau Testament pécherait s'il essayait de servir Dieu comme le fit le roi David ou Élie? Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Or, la foi ne joue aucun rôle sous le régime de la loi. Version Parole Vivante. Ces quatre livres du Nouveau Testament, Romains, Hébreux, Galates, et une bonne partie du livre aux Éphésiens, ont été écrits dans le but de nous amener à renouveler nos pensées afin que nous ne servions pas à Dieu comme le prescrivait la loi. En règle générale, toutes les épîtres de Paul sont claires à ce propos. Le livre aux Romains exhorte les chrétiens à renouveler leurs pensées afin qu'ils ne cherchent pas à obtenir la justification par les œuvres et par leurs propres efforts et qu'ainsi ils ne vivent plus sous le joug de la loi et des œuvres de l'Ancien Testament. Le livre aux Hébreux met fortement l'accent sur le fait que Jésus supplante l'Ancien Testament. Parce que Jésus est notre grand souverain sacrificateur, nous ne dépendons plus du sang des sacrifices, des boucs et des taureaux. Son sang pur, versé pour nous, nous a libérés. Certes, l'Église a admis que les sacrifices d'animaux étaient inutiles, mais les Écritures vont encore plus loin. Elles disent aussi que nous ne sommes plus sous le régime de la loi qui condamnait notre conscience. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Hébreux 10, verset 2. La Bible dit que c'est en purifiant notre conscience que nous perdons la conscience du péché. Il y a probablement des gens qui voudraient me lapider pour avoir dit cela. « Ouh, frère, comment oses-tu ? Je crois que nous devons observer les 10 commandements. Nous devons vivre sous la loi de l'Ancien Testament. » Beaucoup de gens sont persuadés qu'il faut observer les commandements. Or, la plupart d'entre eux ne sont même pas capables de les citer de mémoire. En outre, il existe plus que 10 commandements. Il y en a des centaines. En fait, ces chrétiens qui insistent pour vivre sous la loi ne la connaissent pas. Pour le moins qu'on puisse dire, leur raisonnement est illogique. Celui qui est convaincu du contraire devrait au moins pouvoir réciter les commandements. Il y a suffisamment d'écritures à ce sujet. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il en ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2, versets 16 à 21. Savez-vous que la mort de Jésus-Christ serait sans effet s'il fallait observer la loi pour plaire à Dieu et pour être justifié? Si c'était le cas, le sacrifice de Christ serait rendu vain, et vous, vous rejetteriez la grâce de Dieu. En ne comprenant pas réellement qui est Dieu, beaucoup d'entre nous avons inconsciemment rejeté sa bonté, son amour et sa miséricorde. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, Galates 5, verset 1. Savez-vous de quoi il nous a libérés ? Du péché, diront certains. Oui, mais qu'est-ce qui donnait de la puissance au péché ? La loi. Tout le livre des Galates montre que Jésus nous a libérés de la servitude de la loi qui nous condamnait. Dans 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9, nous avons vu que le régime de la loi conduisait à la mort et à la condamnation. Dieu le désirait-il ? Voulait-il nous conduire à la mort ? Voulait-il nous culpabiliser ? En aucun cas. Dans Romains 3, versets 19 à 20, nous avons aussi étudié que la connaissance du péché est venue par la loi, que le monde entier a été trouvé coupable et que toute bouche est fermée devant Dieu. En révélant notre péché, la loi nous culpabilisait devant Dieu. En Corinthiens 15, verset 56, dit que « le péché tirait sa force de la loi ». Version Parole Vivante. La loi donnait de la force au péché. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Romains 7, versets 8 à 11. Tout comme le péché a des conséquences négatives, la loi aussi en a. La loi nous rend conscients de notre péché et nous ôte tout espoir de pouvoir nous approcher de Dieu. Dieu ne déversa pas sa colère pour ne pas exposer complètement le péché. Aussi, peu à peu, les hommes se mirent à le justifier, ignorant l'effet mortel du péché. Ils s'y adonnèrent sans restriction, ce qui permit à Satan de dominer la race humaine. Dans l'attente de la venue de Jésus, Dieu dut limiter temporairement le péché pour éviter qu'il ne croisse, ne domine et finisse par détruire la race humaine. À cause du niveau élevé des transgressions, il établit la loi qui ne devait perdurer que jusqu'à la venue de Jésus. Ce n'était pas tant pour nous faire réaliser le degré de notre corruption que Dieu intervint de cette façon, mais plutôt pour limiter le péché. Les hommes s'étaient séduits eux-mêmes en pensant que le péché était acceptable. Sans la loi, une autre conséquence néfaste serait apparue. Dieu n'aurait pas pu juger pleinement le péché, puisque les hommes ne tombaient pas foudroyés à chaque fois qu'ils péchaient. La gravité du péché leur échappait. Je sais bien que je devais être meilleur, ou que je devrais être meilleur. Je vais donc prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Je ne battrai plus ma femme, je ne boirai plus. En s'améliorant, ils reprenaient confiance dans leur propre bonté et déduisaient. Dans le fond, je ne suis pas si mauvais. En fait, je suis même plutôt bon. Je pense que j'irai au ciel. Ils ne considéraient pas le sérieux du péché qui subsistait encore dans leur vie. Aujourd'hui, nous entendons la même chose. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer les gens en enfer ? Dieu accepte tout le monde, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, etc. Du moment qu'ils font de leur mieux, Dieu les accepte. C'est faux. C'est de la tromperie. Sans la loi, la race humaine aurait conclu « Faites du mieux que vous pouvez et Dieu vous acceptera ». Si Dieu n'avait pas puni le péché, les hommes n'auraient pas compris combien il était mortel. Alors, par l'intermédiaire de la loi, Dieu révéla sa vraie colère vis-à-vis du péché. En donnant la loi, Dieu avait l'intention d'obtenir un résultat similaire à celui que l'éducation prodigue à un enfant. Vous ne pouvez pas exiger l'obéissance d'un enfant de 2 ans en le raisonnant. Écoute, Pierre, Dieu dit de partager, alors tu ne dois pas prendre le jouet de ta sœur. Dieu dit de donner parce que nous devrions faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. En fait, tu voles ta sœur quand tu lui prends son jouet. Tu obéis au diable. Et à chaque fois que tu lui cèdes, tu lui donnes accès dans ta vie. Là, tu es en train d'apprendre à faire comme lui. Et si tu persistes dans cette voie, à 20 ans, Tu perdras ton travail et plus tard, tu rateras ton mariage. Tu n'auras que des problèmes et tu n'arriveras jamais à rien. Si vous vous mettez à expliquer cela à un enfant de 2 ans, il vous regardera avec de gros yeux, ne comprendra pas ce raisonnement complexe. L'enfant ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas qui est le diable. Il ne sait pas comment lui résister. Il ne connaît rien aux esprits démoniaques. Alors que faire? Certains diront: dans ce cas, je vais le laisser faire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de raison. Si vous attendez que votre enfant soit aussi âgé, vous aurez des problèmes. Dieu nous a donné des mesures temporaires pour corriger les mauvaises attitudes des jeunes enfants. La Bible appelle l'une d'elles la verge. Aujourd'hui, on parle d'une fessée ou d'une tape. Vous pouvez très bien faire obéir un enfant de 2 ans en lui disant « Tu ne connais ni Dieu ni le diable, mais si tu recommences, tu auras une fessée. » L'enfant ne sait peut-être pas qui est le diable, mais la prochaine fois que le diable dira « Vole ce jouet ou tape ce petit copain », l'enfant résistera au diable. Vous pouvez lui apprendre à résister au péché et l'amener à se conformer à un standard saint, par la seule crainte du châtiment, sans qu'il sache pour autant ce qu'est le péché ou qui est le diable. Vous pouvez lui inculquer la crainte du martinet et je vous garantis qu'elle aidera l'enfant à se soumettre. L'utilisation temporaire du martinet est bonne et utile, mais elle deviendrait nuisible si elle était la seule motivation qui pousse un enfant à vivre conformément aux Écritures. La peur de prendre une fessée n'est pas une bonne motivation pour pousser l'enfant à devenir un adulte. Ce n'est qu'un moyen temporaire en attendant que l'enfant ait atteint l'âge de raison. Lorsque j'étais enfant, ma mère m'obligeait à traverser la rue en regardant des deux côtés, qu'il y ait ou non des voitures. Je prenais une fessée si je ne respectais pas cette règle. À cet âge, si j'étais apte à comprendre que traverser devant une voiture me vaudrait une fessée, en revanche, je n'avais aucune peur d'être renversée puisque je n'étais pas en mesure d'en évaluer les conséquences. Mais je craignais la fessée, parce que ça, je le comprenais. Et c'est cette peur qui me motivait à regarder des deux côtés de la rue. Aujourd'hui, je suis adulte. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait si en traversant la rue, je réalisais « Oups, je n'ai pas regardé des deux côtés ». Et si arrivé de l'autre côté, sans avoir été renversé, je suppliais en tremblant « Oh, s'il vous plaît, ne le dites pas à ma mère ». Que personne ne le colporte à ma mère. Si elle l'apprend, elle me donnera une fessée. Vous penseriez que je suis bizarre. Vous me regarderiez en me disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Si tu regardes des deux côtés de la rue avant de traverser, ce n'est pas à cause de la fessée, mais plutôt parce qu'un jour ou l'autre, tu sais que tu te feras renverser par un camion. » En tant qu'adulte, je ne suis plus sous l'autorité de ma mère. Ma mère ne me donnera pas une fessée si je ne regarde pas des deux côtés de la rue. Néanmoins, il est sage de le faire parce que je tiens à la vie. Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de raison, cet instrument, le martinet, était utilisé pour me restreindre et pour m'empêcher de mal faire. Dieu a donné la loi dans ce seul but, être un moyen temporaire qui pointerait vers la solution permanente. Ceux qui sont nés sous l'Ancien Testament n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas, comme nous, recevoir la révélation de la connaissance. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, verset 14. Puisque ceux qui vivaient sous l'Ancien Testament ne pouvaient pas saisir ce que je vous explique, Dieu leur donna un moyen tangible de se maîtriser, quelque chose qu'ils comprendraient. Puisqu'ils ne croyaient pas que le péché était si mauvais, Dieu leur dit « Ah, vous ne le pensez pas. Allez-y, ramassez du bois le jour du sabbat et vous serez lapidés. » Soudain, ils réalisèrent que Dieu n'aimait pas leur façon de vivre le jour du sabbat. Dieu dit « Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé de la malédiction. » Bien vite, les gens comprirent que Dieu voulait qu'ils donnent leur dîme. Dieu avertit « Tuez et vous serez tués, œil pour œil, dent pour dent. » Main pour main et pied pour pied, et la gravité du péché leur apparut sous un angle nouveau. Quand Dieu révéla sa colère vis-à-vis du péché, les gens réalisèrent tout à coup que leur conception du bien et du mal était totalement erronée. Leur conscience étant souillée et morte, Dieu dut les aider à faire la différence entre le bien et le mal. La loi réveilla leur conscience. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Galates 3, verset 23. En matière de salut, les gens ne comptaient que sur eux-mêmes. Après tout, je ne suis pas si mal que ça. Depuis longtemps, je n'ai rien fait de vraiment terrible. Je suis certainement parmi les bons. Après que la loi fut donnée, ils prirent conscience. De toute façon, même si à l'avenir je ne péchais plus, je ne peux rien faire pour expier mes péchés passés. Et ils furent confrontés à leur situation désespérée. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. 1 Timothée 1, versets 8 à 10. La loi a un but et un mode d'emploi précis. Sa vraie raison d'être, c'est de révéler le besoin de Dieu. Puisque celui qui ne comprend pas qu'il a transgressé contre Dieu se séduit lui-même, la loi sert à démontrer qu'il ne peut aller au ciel sans le salut offert par Jésus. Au cours d'une de mes réunions, à Houston, au Texas, un homme se leva et se mit à maranguer. J'essayais de m'entretenir avec lui, mais il n'était pas cohérent. Finalement, je le réprimandais et lui ordonnais de se rasseoir, ce qu'il fit. Après la réunion, il s'avança et s'assit au premier rang. Entièrement sous l'effet de la drogue, il pouvait à peine parler. Je lui dis « Dieu vous aime, il veut changer votre vie. Il peut vous libérer et vous débarrasser de l'esclavage dans lequel vous êtes. » L'homme rétorqua « Je n'ai aucun problème. Je ne suis sous aucun esclavage. Tout va bien pour moi. » Mais rien qu'en le regardant, le contraire était évident. Alors j'ajoutais « Écoutez, Dieu lui-même peut venir vivre en vous et vous libérer. » Il répliqua « Ah, je suis Dieu. Dieu est au plafond. Dieu est dans le ciment. » Pour lui, Dieu n'était qu'une force, qu'un concept. Il n'était pas une personne vivante. Il continua « Je n'ai aucun péché. La notion de péché est subjective. » En fait, le cœur de cet homme était endurci et séduit au point de ne pas comprendre le parfait standard de Dieu. Lui parlant avec amour, j'essayais de mettre en avant la bonté de Dieu, dans le but de le conduire à la repentance. Il était tellement dans l'erreur que sa conscience était déconnectée. Il n'arrivait plus à faire la différence entre le bien et le mal. Face à cette constatation, je fis référence à la loi. Utilisant la parole de Dieu, je lui révélai son péché. Je le mis en pièces. Vous n'êtes qu'un parasite. Vous croyez être bon, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez aucune joie. Je lui révélai tout ce qui en lui était corrompu, la convoitise, la cupidité, la luxure et tous les autres péchés que Dieu hait. J'utilisais la parole de Dieu pour l'émonder et lui prouver son besoin d'un sauveur. Sans l'intervention de Dieu, il allait droit en enfer. Devinez la suite. La loi transperça toute cette séduction. Mentionner la loi ramène brusquement la conscience au juste niveau de sainteté de Dieu. Peu importe à quel point quelqu'un est séduit et pense. Les drogues sont bonnes, la liberté sexuelle aussi. Le péché n'est que subjectif. Si vous savez utiliser correctement la loi, je vous garantis qu'il verra son péché tel qu'il est. Le Seigneur détruira toute séduction et sa conscience fonctionnera à nouveau. La loi sert à révéler notre besoin de Dieu. Mais une fois ce besoin identifié, la loi est totalement incapable de produire la relation nécessaire avec Dieu. Et c'est là où les chrétiens se trompent. Après avoir été convaincu de péché, il tente d'obtenir une relation juste avec Dieu en essayant d'observer la loi. La loi de l'Ancien Testament était remplie de « tu ne feras pas » qui furent interprétées ainsi. Par la loi, Dieu me fait savoir ce que je dois faire pour mériter une relation avec lui. Si je respecte le sabbat, si j'honore mon père et ma mère, si je ne commets pas de meurtre, si je ne vole pas, si je ne produis pas de faux témoignages, alors je serai en règle avec Dieu. Non, ce n'était pas ce que Dieu enseignait. Le but de la loi n'était pas de l'observer pour gagner le ciel. Personne d'ailleurs ne peut la respecter entièrement. Romains 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Personne, à l'exception de Jésus, n'est capable d'observer la loi. Je le répète, Dieu n'a pas donné la loi pour que nous gagnions le ciel en l'observant. Bien au contraire, Dieu nous l'a donné pour dévoiler la condition désespérée de l'être humain, pour lui révéler son état pécheur et pour le persuader de cesser de chercher en lui-même le salut qui ne peut venir que de Dieu. La religion prêche la loi en expliquant que Dieu exauce les prières et nous accepte au ciel si nous allons à l'église et si nous respectons un ensemble de règles. Si c'était vrai, aucun de nous n'aurait pu naître de nouveau. Parce qu'avant la nouvelle naissance, personne ne peut vivre droitement. La loi de l'Ancien Testament n'a pas été donnée pour qu'en la respectant, nous méritions une relation avec Dieu. Elle nous a été donnée pour exposer notre péché, pour nous condamner et pour détruire tout espoir d'autosuffisance par rapport au salut. Imaginez un vieux taureau dans un champ qui dirait « J'ai été méchant avec tout le monde, je ne devrais pas être comme cela. » Puisqu'il ne faut pas charger celui qui traverse un champ, je vais changer. Je ne serai plus méchant. Désormais, je vais aimer tout le monde. Pensant avoir changé, le taureau ruminerait tranquillement son foin dans le champ. Mais ce n'est pas parce qu'il penserait avoir changé qu'il aurait effectivement changé. Si vous tentiez de traverser le champ, ce taureau vous regarderait. Sur le moment, il ne chargerait pas, il ne broncherait pas. Mais si vous brandissiez un drapeau rouge et l'agitiez devant son museau, soudain, la vieille nature de ce taureau se réveillerait et il vous chargerait. Est-ce le drapeau rouge qui aurait rendu le taureau mauvais? Non. Le drapeau n'aurait fait qu'extérioriser ce qui était en lui. Quand des personnes sont séduites, il est bénéfique d'exorciser d'elles tout le négatif. Par exemple, si elles pensent mener une vie droite alors qu'elles vivent dans le péché, prenez la loi et agitez-la devant elles. Je me souviens d'une situation où je savais que quelque chose n'allait pas entre notre couple et des personnes de notre entourage. Finalement, le dernier jour du voyage, Jamie et moi-même nous mîmes d'accord dans la prière pour que ce problème remonte à la surface et qu'il soit réglé. Savez-vous ce qui s'est produit? Une des femmes du groupe explosa de colère après moi et prétendit que j'étais le diable. Elle perdit complètement la tête. Ce jour-là, Satan essaya de la tuer et ce fut une scène terrible. Néanmoins, le fait que cet aspect négatif remonte à la surface fut bénéfique parce que cela nous permit de le régler en mettant à jour la tromperie que ses amis avaient accepté de croire. Nos amis n'avaient pas compris le fond du problème, spirituellement parlant, mais quand ils virent la réaction de cette femme envers moi, ils furent convaincus que le problème venait bien d'elle et non pas de moi. Au cours de notre ministère, toutes ces personnes furent libérées. Aujourd'hui, nous sommes de proches amis. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisa la loi pour révéler à l'être humain son problème, le péché, et pour exposer le caractère désespéré de sa condition. Le Nouveau Testament explique que si aujourd'hui Dieu en était contraint, il ferait encore usage de la loi. Vivre sous la loi de l'Ancien Testament, placé sous un joug terrible, mais en ces jours-là, c'était le meilleur moyen que Dieu pouvait offrir. Certains diront peut-être, « Eh, attends une minute, tu penses qu'à cette époque-là, Dieu n'aurait pas pu nous donner la nouvelle alliance ?» Exactement. La Bible dit que Jésus naquit lorsque les temps furent accomplis. Galates 4, verset 4. Jésus naquit dès qu'il lui fut possible de sauver la race humaine. Beaucoup de prophéties devaient d'abord être accomplies. En attendant, Dieu dut utiliser la loi de manière temporaire pour régler le problème du péché qui détruisait la race humaine. Malheureusement, ce moyen temporaire est interprété par un grand nombre comme étant la vraie représentation de Dieu. Ils pensent que, pour régler le problème de l'être humain, Dieu n'a pour seul recours que la loi. C'est faux. À partir du moment où Adam et Ève péchèrent, et longtemps après leur expulsion du jardin d'Éden, Dieu démontra encore sa grâce envers eux en cherchant à les conduire à la repentance par le seul moyen de sa bonté. Il pointait ainsi vers le Sauveur à venir.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.